Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. En sortie scolaire, ce jeudi, Emmanuel Macron et Pape Ndiaye à Marseille, cap sur l'école du futur, alors que l'école d'aujourd'hui manque cruellement de professeurs, on va l'entendre dans un instant. Des excuses qui ne passent pas, celle de Gérald Darmanin au Sénat hier, adressée aux supporters de Liverpool, ils n'en veulent pas. Les Français déconnectés à 10 jours des législatives, drôle d'ambiance pour une campagne. Voilà ce que vous explorerez, Nicolas, dans le grand entretien tout à l'heure.
Oui, avec le politologue Brice Teinturier, le sociologue Jean Viard, qui seront donc à notre micro avec Léa tout à l'heure. Appelez-nous dès maintenant, amis auditeurs, 01 45 24 7000.
C'est fou ce qu'ils aiment leur reine, les Britanniques, prêts pour 4 jours de célébration des 70 ans du règne d'Elisabeth II. Nous serons à Londres. Dans ce journal aussi, y aurait-il eu de la triche au concours d'entrée de 19 écoles de commerce? Ça y ressemble fort. Et puis le retour du Phénix, le groupe français sur la scène du festival We Love Green ce soir et sur France Inter, soirée concert.
France Inter.
10 000 postes à pourvoir pour la rentrée de septembre dans les écoles primaires. Meilleura-t-il un professeur dans chaque classe? C'est la grande inquiétude du moment. Les concours d'enseignants ne font pas le plein et d'ores et déjà, les enfants se retrouvent trop souvent sans professeur à Marseille comme ailleurs. Mais puisque c'est à Marseille que se rendront tout à l'heure le président et son ministre de l'Éducation, allons-y. L'accent là-bas a été mis sur la rénovation des écoles, 1 milliard 200 millions d'euros. Mais à quoi bon quand la maîtresse n'est pas là? Laurent Grollet.
Des moyens, oui, mais des moyens d'abord humains. Dans cette école de la Cabucelle, Marion Amiat, représentant des parents d'élèves, constate les dégâts.
Là, depuis les vacances de Pâques, les petits auraient raté 8 semaines de cours à cause du non-remplacement d'enseignants. Plus, ça fait 3 semaines que nous sommes sans directeur.
Et face à ces absences à répétition, cette mère de famille engagée lance un appel au président Macron, mais aussi à son nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Je leur dis que dans une école où on est en grep plus, on voit bien qu'en fait, les moyens ne sont pas mis. Nos enfants, c'est aussi les enfants de la République et qu'ils ont un droit à l'éducation comme tous les autres enfants à Marseille et en France.
Et les premières victimes de cette pénurie de professeurs, ce sont bien sûr les enfants, pointe de son côté Karine.
Ce matin, j'ai une maman qui nous a raconté que sa fille était en pleurs parce qu'elle ne peut pas faire classe avec son enseignant.
Des enfants désœuvrés dans cette école du 15e arrondissement, c'est le cas de Lénie, 11 ans.
Les enseignants, ils décident si je vais chez les autres classes.
Qui passe ses journées de classe en classe.
Là, je suis chez les CP. Hier, j'étais chez les CE2. En fait, ça change. Il y a des choses que j'ai pas trop compris. Par exemple, les fractions. On n'a pas fini le planning. Ça fait bizarre.
Marseille, Laurent Grollet, France Bleu Provence pour France Inter.
Voilà pour le tableau. Alors que l'école fait partie des priorités du deuxième quinquennat Macron, pour ce faire, le président a choisi Pape Ndiaye pour mener les chantiers. Ils sont attendus donc tous les deux à Marseille tout à l'heure, dans cette ville où le président veut faire un laboratoire de l'école du futur. On y retrouve Simon Le Baron, bonjour.
Bonjour.
Simon, ce sera donc le baptême du feu pour Pape Ndiaye, attendu de pied ferme par le monde enseignant.
Ce monde qui a toujours été le sien, disait-il, lui, le fils d'une professeure de sciences naturelles, au soir de son entrée rue de Grenelle. Et c'est pour cela, en partie, que Pape Ndiaye a été choisi, réparer le lien avec le corps enseignant, nous explique un conseiller du gouvernement, après 5 ans de bras de fer avec Jean-Michel Blanquer. Les syndicats ont accueilli sa nomination avec un optimisme prudent, ils attendent surtout des actes, rémunération, recrutement, et ils sont prêts à lancer la bataille contre l'explosif projet d'Emmanuel Macron. Cette liberté donnée aux directeurs d'établissement de choisir leurs professeurs que le président entend justement expérimenter ici à Marseille.
Et Marseille, Simon, c'est aussi une ville qui dit beaucoup du symbole politique que représente Pape Ndiaye.
Le spécialiste des minorités et des discriminations, épouvantail instantané de l'extrême droite qui l'accuse de vouloir déconstruire l'école et même la France. Le grand intellectuel dont le choix avait été jugé audacieux par Jean-Luc Mélenchon lui-même, le leader de la NUP que Marseille a placé largement en tête au premier tour de la présidentielle et dont le ton s'est fait depuis beaucoup plus offensif à l'égard du nouveau ministre de l'Éducation. Jean-Luc Mélenchon, clairement désigné adversaire numéro 1 par Emmanuel Macron, en s'affichant ce matin avec Pape Ndiaye, le président montre bien que l'ancien directeur du musée de l'immigration est aussi, dans son esprit, une arme politique contre contre l'alliance de la gauche.
Simon Le Baron à Marseille pour France Inter.
Il est 8h05 à 10 jours des législatives. Florence, l'épisode du Stade de France n'est toujours pas terminé.
Oui, les supporters de Liverpool étaient en surnombre et parfois munis de faux billets. Gérald Darmanin n'a pas changé de ligne hier devant les sénateurs qui réclament des explications sur ce samedi noir, mais le ton s'est adouci. Des excuses ont été présentées aux supporters pour l'utilisation disproportionnée des gaz lacrymogènes, des sanctions demandées au préfet, et puis les policiers français seront dépêchés outre-Manche pour recueillir les plaintes des Britanniques. Alors qu'en disent les intéressés à Liverpool ? Reportage signé Agathe Mahuet.
Aux grilles du stade de Liverpool, une banderole restée accrochée quelques heures donne le ton. Darmanin, menteur. Tous les supporters que l'on croise ici le pensent aussi. Et son audition devant le Sénat n'y change rien pour Kevin.
Il donne surtout l'impression d'essayer de faire oublier ses propres mensonges, mais on n'accepte pas ses excuses. D'ailleurs, ça ne ressemble pas vraiment à des excuses.
Son demi-mea culpa arrive trop tard, ajoute Dylan, pour qui il n'aurait pas dû dès le départ rejeter la faute sur les supporters des Reds. 35 000 Anglais venu au stade sans billet, le ministre de l'Intérieur le réaffirme, chiffre pourtant très contesté. Et quand Gérald Darmanin s'excuse sincèrement que des lacrymos aient pu atteindre des enfants, Wayne pense que ça ne suffit pas.
Il continue de dire que le gaz lacrymogène a été utilisé pour éviter des bousculades, mais ça a causé plus de problèmes que ça n'en a évité.
Certains se félicitent de pouvoir porter plainte au Royaume-Uni pour ceux de ses supporters qui ont été volés ou agressés samedi soir. Mais la police va jeter nos plaintes à la poubelle sans même les regarder, Dylan en est convaincu. Oui, on est en colère, confirme Kevin. Darmanin, tout ce que je veux, c'est qu'il démissionne, dit-il, ou qu'il soit démis de ses fonctions.
Agathe Mahuet à Liverpool, Gérald Darmanin et la ministre des Sports ont aussi demandé à l'UEFA d'indemniser les supporters qui n'ont jamais pu entrer dans le stade alors qu'ils avaient de vrais billets pour cette finale. Là non plus, il n'est pas seulement question de football quand les joueurs sont ukrainiens, équipe nationale, sommée par les soldats du front de réconforter leur peuple et qu'ils battent l'Écosse chez elle hier soir. L'équipe d'Ukraine qualifiée pour la finale de barrage du Mondial. On a joué pour ceux qui se battent dans les tranchées jusqu'à la dernière goutte de leur sang, dit le sélectionneur de la Sbirna. Rendez-vous dimanche à Glasgow face au Pays de Galles pour une place au Qatar. Jouer pour un pays sous les bombes, le Donbass pilonné par les Russes, ce médecin américain volontaire revient du front traumatisé. Nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Alexandra Bergel l'ont rencontré dans le sud de l'Ukraine où il s'est accordé un peu de répit.
Il y a le fracas des obus.
Boum, 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 boum.
Et puis, la peur de mourir. Kevin a participé à 4 évacuations humanitaires. Il a sauvé 183 civils.
J'ai besoin d'un moment. C'est la première fois que j'en parle.
Lors du troisième convoi, la semaine dernière, il a cru vivre sa dernière heure.
On attendait le chargement des réfugiés. Et voilà les obus. Tu commences avec un tir. Tu rates la cible. Et tu bouges, rebouges, jusqu'à ce que tu frappes la marque. Si tu entends boum, 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 tchboum, 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 et tu sens la pluie des débris. Et j'étais encore en vie. C'était clairement pas aléatoire. Ça me révolte.
Kevin a 60 ans. Il est professeur dans une école de médecine dans l'Oregon. Début mai, il décide de prendre 2 mois de congé pour partir en Ukraine.
Poutine, c'est Trump. Trump, c'est Poutine. Et pour moi, me battre, que ce soit contre Trump, contre Poutine, c'est défendre mon pays bien-aimé.
Kevin se repose actuellement à Mykolaïv, c'est au sud du pays. Il doit retourner au front la semaine prochaine.
Voilà, retour dans le Donbass, sous la ville de Severodonetsk, qui est désormais contrôlée à 70% par les Russes. Nous perdons 60 à 100 soldats chaque jour dans l'Est, dit le président Volodymyr Zelensky.
70 ans de règne, Florence, ça vaut bien une fête.
Et quelle fête au Royaume-Uni, 4 jours fériés pour célébrer le jubilé de platine d'Elisabeth II, à la fois souveraine, respectée et mascotte des Britanniques. Le pays entier pavoisé aux couleurs du drapeau, coup d'envoi à 10h ce matin avec une parade militaire et musicale à cheval à Londres, le long du Mall jusqu'à Buckingham Palace où les plus fervents admirateurs de la couronne ont dormi sous la tente, Farida Noir.
Essai de micro, les barrières elles sont en place sur le Mall car derrière une foule immense est attendue, alors pour être sûr d'être aux premières loges, c'est ma tante. Jane a passé la nuit ici, venue de Winchester. La quinquagénaire blonde porte une couronne en plastique un peu usée aux couleurs du drapeau britannique. Elle a depuis des années la sort à chaque jubilé de la reine.
C'est une femme merveilleuse qui ne se plaint jamais. Mais je ne suis pas sûre de voir la reine. Peut-être qu'elle garde son énergie pour la cérémonie religieuse qui aura lieu demain. C'est une vieille femme maintenant. Et Ça me fait mal au cœur de dire cela, mais on ne sait jamais. C'est la reine et elle peut faire ce qu'elle veut.
Leslie, venue du Kent, ne voulait rater ce jubilé pour rien au monde. Elle se relaie depuis hier avec des amis sur des petites chaises pliantes accrochées aux barrières. Ce matin, elles seront au premier rang.
Je suis fan de la reine. C'est 70 ans de règne. C'est juste fantastique. Donc on est ici pour lui montrer notre soutien, pour lui faire savoir qu'on l'apprécie. Elle est âgée, vous savez, et malheureusement, elle devra un jour nous quitter. Et ce sera un jour très triste. Mais elle est encore là et on célèbre ce jubilé avec elle. On va faire la fête.
Environ 1500 militaires et musiciens défileront pour ce Trooping the Colour, coup d'envoi des festivités de ce jubilé.
Voilà, 4 jours de fête qui s'achèveront dimanche avec un pique-nique national. Tous les Britanniques appelés à déjeuner dans la rue et dans les parcs ce jour-là, quelle que soit la météo. À Paris, le God Save the Queen retentira sous l'Arc de Triomphe. Tout à l'heure, Emmanuel Macron ravivera la flamme en hommage à la reine. Ça n'est pas dans leur culture, pourtant ils feront grève aujourd'hui. Les diplomates français vont debout contre la réforme de la haute fonction publique qui signe la fin, disent-ils, de la diplomatie professionnelle fondue dans un grand corps d'administrateurs de l'État. Pour les terminales et les aspirants aux études supérieures, l'avenir se dessine à partir de 19h ce jeudi. Ils vont commencer à recevoir les réponses de leurs vœux sur Parcoursup. Alors qu'il est question de triche au concours, dans un grand concours d'entrée au... Alors excusez-moi, j'ai perdu mon lancement. Il y a eu un grand concours d'entrée début mai pour 19 écoles de commerce avec de grands soupçons de triche révélés par des professeurs. C'est Delphine Simon qui nous raconte la suite.
C'est l'association des professeurs de classe prépa commerciale qui relaie les témoignages. Des dizaines d'étudiants dénoncent le laxisme de l'organisation du concours. Dysfonctionnement dans une quinzaine de centres. Parfois, c'est l'identité des candidats qui n'aurait pas été vérifiée comme il se doit. Des surveillants qui s'absentent plusieurs minutes. Des candidats qui composent téléphone allumé, leur sac à leurs pieds, voire sur les tables. Certains auraient continué d'écrire après la fin de l'épreuve. Si c'est avéré, c'est particulièrement grave et scandaleux, dénoncent les professeurs de classe prépa qui réclame la lumière. Du côté des organisateurs, la direction des concours à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, on reconnaît avoir identifié plusieurs cas d'usage de téléphone. Les écoles en seront informées, mais les concours ne seront pas annulés. Les règles ont changé avec le Covid, explique-t-on. Les sacs des candidats ne sont pas regroupés comme il est d'usage. Chacun peut les conserver avec soi pour éviter la dispersion du virus. Ce sont les mêmes consignes pour tous les concours, rappelle-t-on, et l'on dénonce une attaque en règle contre cette banque commerciale. Une des preuves qui regroupe le concours commun de 19 écoles de commerce.
Delphine Simon, plus de 70 000 détenus pour 60 000 places. Les prisons françaises, de nouveau surchargées. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté s'en désole. La surpopulation est revenue à son niveau d'avant Covid. C'est le retour des matelas par terre. Hier, un détenu est mort et un autre a été gravement blessé dans l'incendie de leur cellule au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. À Roland-Garros, on connaît l'affiche de la deuxième demi-finale. Le Norvégien Casper Ruud face au Croate Marin Cilic, demain à suivre avec le Nadal Zverev. D'ici la place aux demi-finales dames aujourd'hui, la Russe Daria Kasatkina affrontera la Polonaise Iga Swiatek et puis la jeune Américaine Coco Gauff a rendez-vous avec l'Italienne Martina Trevisan. Eux sont 10 et à la fin, il n'y en aura qu'un. Les auteurs des romans sélectionnés pour le prix du Livre Inter, il nous en reste 2 à vous faire entendre avant les délibérations du jury de lecteurs dimanche et la révélation lundi matin. Aujourd'hui, Maria Pourchet pour Feu, c'est le titre de son livre.
Feu est un livre sur la passion amoureuse. C'est la métaphore qui s'est imposée à moi. Je ne parle pas de l'amour. Hein. Pour moi, l'amour, c'est l'attachement. C'est encore autre chose. Mais la passion amoureuse. Et j'ai voulu étudier tous les états de la passion comme feu. Des premiers crépitements à la flamme, à l'embrasement, à l'incendie, qui vont unir deux personnes qui, comme on le dit classiquement, n'étaient pas faites pour se rencontrer. Je me suis laissée envahir par ce livre. Je savais absolument pas s'ils allaient finir ensemble ou pas. Et j'ai moi-même été surprise par leur appétit alimenté ce feu jusqu'à la destruction et même pour certains jusqu'à l'autodestruction.
Qu'est-ce qui fait qu'on raconte une histoire d'amour avec de l'humour, avec un œil au laser?
L'humour, c'est pour pas prendre le réel en pleine face. Là, je me suis imposé un sujet tragique et je pensais vraiment que pour le coup, il n'allait pas rester grand-chose de mon ironie et de mon humour avec une histoire comme ça, qui est finalement assez racinienne. Et en fait, non.
Maria Pourchet en lice pour le livre Inter au micro d'Eva Bétan. Enfin, France Inter se marie puisqu'on parle de passion. Tiens, avec We Love Green, le festival parisien, soirée-concert ce soir avec Gorillaz, Georgia Smith et Phoenix. Le groupe français de retour avec un nouveau single, Alpha Zulu, concocté en pleine pandémie pour un album qui sortira à la rentrée. De quoi explorer de nouveaux horizons musicaux, comme l'a raconté le guitariste de Phoenix, Christian Mazalet, dans une interview exclusive au micro de Mathieu Culot.
Il y a 2 ans et demi, on s'est retrouvés dans un nouveau lieu avec aucune chanson et un nouveau chapitre à écrire pour nous, quoi. C'est le lieu, on se trouve, qui est le musée des arts décoratifs dans le Louvre, à Paris, avec mon frère. C'était notre rêve depuis, depuis plus de 10 ans, de faire un album dans un musée. Thomas vit à New York, donc là, on l'a pas vu pendant 8 mois, je crois. Il a réussi à venir entre 2 confinements. Je crois que pendant 1 an et demi, il est venu peut-être 20 jours seulement. On n'a jamais autant créé avec une abondance folle. Donc tous les trois, les musiciens et lui à New York, avec des boîtes à rythme, sans autres musiciens, parce que notre batteur était en Suède bloqué aussi. Donc on a essayé de se réinventer, faire un truc peut-être plus électronique. Tout ce Covid et tout, finalement, ça nous a amené à écrire différemment. Plus électronique, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'avait vraiment pas prévu. Et d'ailleurs, tout ce qu'on entend, c'est presque la première prise. C'est plus tourné vers le futur. Et Alpha Zulu, il vient de un code d'avion. Thomas était dans un avion, il a entendu le pilote. Il a noté sur une phrase et il a rechanté comme ça.
Et voilà, Phoenix, invité ce soir sur la scène de We Love Green et à écouter sur France Inter, soirée spéciale présentée par Mishka Assayas à partir de 21h.
Merci Florence Paracuelos, la météo Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Moi j'ai mon lancement, le ciel reste chaotique ce matin Marie-Pierre.
Et oui Nicolas, du Bordelais au Massif Central, au Savoie, c'est toujours instable avec pas mal d'averses et encore des orages ponctuels vers Limoges et Brive. Et puis sur le sud de la Bretagne, vous n'êtes pas à l'abri d'une averse. Et puis comme hier, le vent d'autant souffle et pousse toujours des nuages maritimes vers le golfe du Lion. Partout ailleurs, vous avez pu voir le soleil se lever avec des températures très contrastées entre les 1 petit degré à Charleville-Mézières, 4 à Beauvais, 20 à Toulon et Ajaccio et même 18 à Bordeaux.
Et l'activité orageuse, Marie-Pierre, sera plus importante cet après-midi.
Oui, et cette bande orageuse ne sera pas bien organisée mais va s'élargir et ces orages vont gagner les Pyrénées en remontant jusqu'à la Loire, au Massif Central, au Jura, la Franche-Comté jusqu'aux Alpes. Pas de vigilance orange, mais ces orages seront fort ponctuellement sous la grêle et des rafales de vent. De part et d'autre, le soleil sera généreux, avec parfois quelques nuages d'altitude qui n'empêchera pas la chaleur de franchir la Loire. À noter tout de même quelques averses sur le relief corse et des grisailles résistantes sur le Roussillon. Et le vent qui va apporter de la chaleur étouffante. Il fera toujours un peu frais, par contre, près de la Manche. 18 à Cherbourg, mais 23 à Saint-Malo. Comptez 23 à Brest, 24 à Nice, 25 à Paris, comme à Saint-Jean-de-Mont. Il fera 27 à Nantes, 28 à Strasbourg et à la Motte-Beuvron, 32 à Manosque et Montauban.
Merci Marie-Pierre, France Inter 8h10.